Je suis sûr que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 12 juillet 1998 ou encore le 15 juillet 2018. Le sport procure des émotions uniques et se vit différemment pour chaque personne. Alors, quelle est la recette secrète exaltante du sport ? Comment arrive-t-il à fédérer, dynamiser et passionner autant de personnes diverses ? Que l'on soit sportif professionnel, pratiquant régulier ou simple fan ? Bienvenue au Café des Sports. Dans ce podcast, nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de YoBureau. YoBureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes, au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoburo.com. Bonne écoute! Le sport et la mode, comme passion, est souvent les deux associés ensemble. Cela semble être une bonne entrée en matière pour parler de Sandrine Retailleau et de son impressionnant parcours dans le monde du textile. Depuis plusieurs décennies, Sandrine est une experte reconnue de cet univers très concurrentiel. Après plusieurs expériences, elle intègre en 2008 le groupe Adidas et prend rapidement la tête de la division Sport Lifestyle, puis de la direction commerciale. Et quand Adidas décide de repositionner sa deuxième marque Reebok sur le marché du fitness en 2012, c'est à elle que le groupe allemand fait appel. En 2017, elle crée la salle de sport, un concept innovant et atypique au cœur de Paris, au croisement du sport, de la mode, de l'art et de la culture. Sandrine a toujours aimé les défis et être à la pointe de l'innovation. Pas étonnant pour cette fan de sport et pratiquante régulière. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Sandrine au micro du Café des Sports. Bonjour Sandrine.
Bonjour Simon.
Bah, ravi de t'accueillir aujourd'hui et de pouvoir parler de ce parcours qui est assez riche. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport ?
Oh, il remonte à loin. Je pense que le tout premier souvenir, c'est un souvenir de danse. J'ai dû commencer la danse rythmique à l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai poursuivi pendant 14 ans la danse classique. Donc oui, ça doit être le tout premier souvenir. Et très vite, j'ai associé la danse classique à l'athlétisme, qui a été une deuxième passion à partir de l'âge de 10 ans.
Et tu faisais quelle discipline en athlétisme ?
Alors, je faisais du 200 et du 400 mètres. Rien à voir avec les temps magnifiques de Marie-José Pérec. Mais ça a été vraiment une passion pendant de très, très longues années. Ouais.
Et est-ce qu'à cette époque, c'était... ce que j'aime bien demander, mais est-ce que tu avais cette imagination, cette idée de dire bah, pourquoi pas en faire mon métier ou aller le plus loin possible, aller dans le côté compétition sur ces activités ?
Je ne pense pas que j'avais la prescience d'en faire un métier. Par contre, la certitude que ça m'accompagnerait tout au long de ma vie, ça oui, je pense que c'est quelque chose qui est devenu assez vite une évidence.
Et encore aujourd'hui, tu continues à pratiquer, à courir ?
Alors oui, j'ai rajouté une troisième pratique à l'approche des 40 ans, donc qui était la boxe française. Et aujourd'hui, je continue à courir, alors plus sur les pistes d'athlétisme, faut raison garder. par contre, je fais beaucoup de sport quasiment tous les jours en privilégiant, on va dire, la diversité de pratiques. Donc un peu de boxe française, un peu de course, un peu de natation, du pilates, du yoga, voilà, histoire de varier les plaisirs.
Et qu'est-ce que ça te permet au quotidien comme... cette pratique ?
Oh bah, c'est mon oxygène depuis toujours. Je pense que c'est à la fois un exutoire, une source d'équilibre, une source de vibration. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Et une journée sans sport est une journée qui forcément est un peu plus triste qu'une autre.
C'est une belle phrase pour tous les sportifs. Et quand tu étais jeune, donc à côté du sport, donc quel choix d'études tu as fait ? Quelles étaient tes passions, tes envies professionnelles quand tu as démarré tes études ? S'il y en avait.
Il y avait beaucoup de boulimie, donc envie de toucher à tout. Donc en plus du sport, il y a eu la guitare assez vite. Ouais. Et puis à l'école, je crois que tout m'intéressait jusqu'à un âge assez avancé. Donc j'avais envie de, surtout pas de me spécialiser. Je crois que j'avais envie de continuer à m'ouvrir au maximum. Et puis comme c'est loin, je pense qu'à un moment donné, j'ai fait le choix d'une école de commerce, donc j'ai fait Subdeco Paris, en me disant ça m'ouvrira le maximum de champ des possibles et donc ça me donnera le maximum de liberté. Je crois qu'il y avait cette soif de liberté qui m'animait dans le choix de mes études.
Et quand tu as dû normalement te spécialiser, vers quel domaine tu t'es spécialisée ?
Alors assez vite, je me suis dit que la mode était un univers qui me touchait, qui me passionnait. Alors j'ai la chance d'avoir été éduquée dans un milieu d'artistes. Mes deux parents ont fait les beaux-arts. J'ai une sœur aînée qui a fait également les arts appliqués. Alors j'ai un frère qui est plutôt scientifique et moi j'étais le vilain petit canard qui ne savait pas dessiner. Mais c'était un univers qui vraiment m'attirait. Et donc je me suis dit finalement faire une école supérieure de commerce pour pouvoir travailler dans cet univers-là. Quel que soit le métier, j'avais pas vraiment d'idée préconçue du métier. C'était la possibilité de rejoindre un secteur d'activité qui m'intéressait beaucoup. Donc assez vite, je me suis dit je vais faire une école pour travailler, enfin de commerce pour travailler dans la mode, et j'ai orienté tous mes cas d'école sur la mode. Ça faisait rire d'ailleurs quelques fois mes professeurs et mes camarades parce que j'avais un côté un peu monomaniaque. Donc tous les stages et tous les cas d'études étaient axés sur la mode.
Et tes premières expériences professionnelles étaient, je crois, t'as été chez Timberland et dans d'autres.
Alors j'ai commencé par Daniel Echter et effectivement j'ai continué dans l'univers de la mode par la suite en goûtant la création d'entreprise. Donc c'était vraiment ma première passion avant même le sport, en tout cas envisager le sport comme étant un univers de professionnel.
Ouais, d'accord. Et après les deux en fait se sont liés presque naturellement.
Oui, alors c'est toujours une question de hasard, de rencontre. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'univers de la mode. Alors même si Daniel Echter avait déjà aussi une division sport, puis il y a tellement de passerelles entre la mode et le sport et le sportswear. Et c'est en arrivant au sein de Red Cat, donc qui s'appelait à l'époque La Redoute, au sein du groupe Kering, que j'ai eu la chance d'avoir une vraie passerelle professionnelle où j'ai la personne qui m'avait recrutée à l'époque qui a gardé une place très importante dans ma vie. Qui s'appelle Françoise et qui, à un moment donné, s'est rendu compte que le sport était vraiment quelque chose qui était ancré dans ma vie, puisque j'arrivais avec mon sac de sport tous les jours, je faisais du sport tous les jours à La Redoute. Et j'ai eu la chance d'être à un moment charnière où le groupe commençait à lancer des catalogues spécialisés. Et d'accord. Tout naturellement, le sport était à cette époque-là un marché en plein développement. Donc, on m'a proposé, ce qui était une vraie chance, de m'occuper à la fois des pages sport du catalogue principal, mais surtout de participer au lancement d'un catalogue spécialisé qui s'appelait S comme sport.
D'accord.
Voilà. Donc, et c'est là où j'ai fait vraiment la bascule entre la mode et le sport.
Et est-ce qu'il y avait ce côté, justement, tu parlais de plus familial de artistique, est-ce que toi justement tout ce qui était aussi création artistique, c'est ce qui t'intéressait ou c'était plus le développement des marques à proprement parler?
Alors le processus de création artistique, oui, me passionne. Et ce qui m'intéressait, c'était d'être aux côtés des créateurs, de voir justement tout ce travail de conception et d'élaboration. Moi, j'aime beaucoup voir les choses prendre vie. Je suis très touchée par. Enfin, ce qui me motive beaucoup, c'est l'émotion. Et dans les émotions, il y a le mouvement et le processus créatif. C'est vraiment ce qui permet d'allier justement une réflexion cérébrale, on va dire, mais une mise en œuvre concrète. Donc, du mouvement, de l'action qui permet de donner vie à des idées, à des images et à des projets. Donc, j'ai eu la chance de travailler, de côtoyer des créateurs. Et c'est quelque chose de fabuleux de pouvoir, surtout avec le cycle de renouvellement, de pouvoir être aux côtés de gens qui ont cette faculté à imaginer et à recréer saison après saison des nouvelles histoires.
Et j'imagine que tu pouvais peut-être, en tant que pratiquante férue de sport, tester en avant-première, au moins tester la qualité du matériel.
C'est exact. J'ai participé à pas mal de testing produits, oui.
Et en 2008, tu arrives chez Adidas. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est fait, comment ce que tu as pu aussi ressentir peut-être en tant que justement fan de sport ou pratiquant de rentrer dans une marque assez importante comme Adidas.
C'était une vraie chance. Depuis 3 ans, je m'étais mise à mon compte pour faire du développement commercial pour des marques de sportswear, notamment Tommy Hilfiger, après l'avoir fait pour Timberland. Donc j'ai goûté plusieurs fois et assez tôt à la création d'entreprise. Donc ça faisait 3 ans que je travaillais en tant qu'indépendante. J'ai eu la chance d'être contactée par un cabinet chasseur de tête pour me proposer de prendre la direction d'une nouvelle division qui avait été mise en place au sein du groupe Adidas, qui était la division Lifestyle. Sport style. Et bien évidemment, comme tu l'as souligné, moi j'avais deux passions, la mode et le sport, et c'était une opportunité rêvée de pouvoir associer les deux. En plus, c'était une création de poste, et puis c'est un groupe fabuleux, donc c'était vraiment une opportunité incroyable. J'avais pas vraiment prévu d'arrêter mon activité d'indépendante, mais on peut pas dire non à ce genre de proposition, et j'intégrais donc ce groupe pour qui m'a permis de d'associer ces deux passions et ces deux cursus, mode et sport.
Et donc, quand on parle de sport, enfin, de lifestyle comme ça, c'est ce moment charnière pour les marques, enfin, qu'il y a eu Nike, enfin, tout le monde, je crois, s'y est mis de se dire, bah, en fait, on va proposer des produits qui ne sont plus que pour les sportifs, mais pour le quotidien. C'est-à-dire se dire, bon, on va porter des baskets au quotidien, peut-être des survêtements, enfin voilà, des tenues qui soient adaptées au monde du sport et au monde pas forcément du travail, mais dans son quotidien, quoi.
Oui, bien sûr. Même si, bien évidemment, l'ancrage sport permet de légitimer ces produits, et ces produits ont tous un héritage et un ADN sport très, très important. C'est vrai que très rapidement, les marques se sont rendues compte à quel point ces produits étaient détournés, et puis le sport est vraiment devenu un style de vie. Donc, cette culture plus lifestyle ou streetwear, elle est devenue un véritable levier de croissance pour toutes les marques de sport. Et c'était important de pouvoir traiter la stratégie à part entière de cet aspect-là. Donc, très rapidement, il y a des segmentations qui se sont faites. Et en l'occurrence, chez Adidas, sa volonté était de créer une stratégie pour la partie performance et une stratégie pour la partie lifestyle, même s'il y avait une cohérence d'ensemble. Ouais. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper avec toute une équipe de la stratégie d'Originals.
Ouais. Et à cette époque, comment c'est perçu justement par le milieu? Alors, je sais pas si c'est plutôt le milieu sportif qui a pu avoir une problématique par rapport à ça, ou peut-être le niveau, le monde lifestyle habituel qui s'est dit, mais pourquoi ces marques de sport arrivent sur notre terrain de jeu?
Je crois que c'était un mouvement tellement naturel que la légitimité est évidente, parce que même les sportifs qui sont très attachés en général à un équipementier et donc à leur marque sont les premiers à prolonger leur lien avec la marque au-delà du terrain de sport. Donc c'était, je pense, une évidence que les barrières avaient volé en éclats et que le sport allait au-delà de on va dire du lien entre un produit technique et des personnes, mais au contraire rentrer dans la vie au quotidien des passionnés de sport.
Ouais, d'accord. De toute façon, on le voit, enfin, peut-être encore plus fort aujourd'hui, mais que ça soit, alors, en plus des sportifs, que ce soit des chanteurs, beaucoup de dans le monde du hip-hop, enfin, beaucoup de personnes qui se sont vraiment associées aux marques, qui ont fait des collections, qui aujourd'hui, en fait, reprennent à leur compte vraiment tout ce monde du lifestyle que tu as pu voir lancer, quoi.
Bien sûr. Et quand on parle de culture sport, c'est effectivement une culture qui s'ouvre énormément à la musique, qui contribue aussi au mouvement, bien sûr, et puis à toute forme de création artistique. Donc, il y a vraiment plus aucune barrière, et c'est ça qui enrichit cette culture sport.
Tu as pu associer en plus ton troisième passion, la guitare, enfin, notre passion, justement, la musique, avec justement dans ce monde du sport et du lifestyle, quoi.
Oui, et puis je pense que tous les sportifs s'entraînent, pas que les danseurs, hein, en musique. Je pense que c'est quelque chose qui porte le mouvement, le corps, les émotions. Donc, c'est une synergie assez naturelle.
Ouais. Et donc, en 2012, si je ne dis pas de bêtises, tu arrives chez Reebok. Adidas a souhaité que tu puisses arriver chez Reebok, justement, pour créer, développer un nouveau projet au sein de la marque.
Oui, alors c'est aussi la grande chance de travailler dans un grand groupe comme Adidas, qui a beaucoup de mobilité interne. Il y a beaucoup de réorganisation et beaucoup d'opportunités qui se créent. Donc, Adidas avait racheté Reebok déjà depuis plusieurs années. Donc, Reebok était la petite marque du groupe Adidas à l'époque. Et on m'a proposé de reprendre la direction pour la marque Reebok sur le marché français. Alors, pour être très honnête, j'hésitais au départ.
D'accord.
Parce que c'est toujours la même chose, c'est que vous avez la chance de vous occuper de la marque majeure, et puis la petite marque était en train de on va dire traverser quelques cycles compliqués en termes de repositionnement, etc. Donc ça n'a pas été une évidence. Et puis, comme souvent, les décisions se prennent quand on rencontre les personnes.
Ouais.
J'avais à l'époque un directeur général, Guillaume, qui se reconnaîtra, qui venait de prendre la direction générale de la France et qui avait s'était occupé de la marque Reebok pendant quelques années et qui a su très bien me vendre tout le potentiel de cette petite marque très attachante. Donc, il a été le premier à me convaincre, et puis également le patron de Reebok Monde, Matt O'Toole de l'époque, qui m'a expliqué en fait qu'il y avait des leviers de croissance fabuleux, puis surtout qu'il y avait la volonté de repositionner la marque sur son territoire d'origine, qui était le fitness.
D'accord.
Parce que le fitness est né par Reebok, et Reebok a été la première marque mondiale au monde dans les années 80-90 grâce au fitness.
D'accord.
Et donc, on arrivait à un moment clé où il était plus question de se disperser au niveau de Reebok, et il y avait eu un parti pris objectif fort de dire on va revenir sur cet ancrage légitime en réécrivant une nouvelle histoire entre Reebok et fitness à partir des nouvelles pratiques de fitness que sont la boxe, d'où le partenariat avec l'UFC pour le MMA, le crossfit, bien évidemment le yoga et le pilates, la danse. Donc c'était vraiment une nouvelle manière de réécrire l'histoire du fitness, mais avec toute la légitimité de tout l'héritage de Reebok.
Ouais, parce que quand on parle de fitness dans les années 70-80, c'est pas le même fitness qu'aujourd'hui.
Non, même s'il y a encore bien évidemment des formes de fitness chorégraphiées qui peuvent se rapprocher de ce qu'on a connu dans ces années-là, les nouvelles pratiques aujourd'hui, elles sont plus ancrées dans une pratique vraiment sportive. Donc on parle de boxe ou de fitboxing, on va parler de crossfit, qui est du cross-training quand même très très engagé avec de la compétition à très haut niveau. Enfin, il y a le cycling également. Donc il y a énormément de façons aujourd'hui de pratiquer le fitness, de façon très ludique ou de façon au contraire très engagée, très performante. Et toutes ces nouvelles pratiques qu'on retrouve dans beaucoup de salles de sport, c'est vrai que quand on regarde l'histoire, Reebok a une très grande légitimité dans l'accompagnement de ses sportifs. Et puis, il y a eu énormément de gammes qui ont été développées vraiment de façon spécifique pour l'ensemble de ces pratiques au moment où Reebok s'est repositionné sur ce nouveau territoire du fitness.
Et alors, comment, sans refaire toute l'histoire, comment on fait quand on se retrouve face à ce chantier de se dire, ben, en fait, voilà, on a, j'imagine déjà beaucoup de choses qui sont faites. Est-ce que c'est de se dire, on tire un trait sur tout ce qui existe, on arrête des collections et on repart un peu de zéro. Enfin, comment c'est d'imaginer justement comment tu t'es retrouvé dans cette position de te dire voilà, je pars un peu d'une feuille blanche, même s'il y avait l'historique de Reebok, mais de tout redémarrer, surtout sur dans les années 2010, le fitness à ces moments ça a vraiment explosé quoi. Enfin, ça a réexplosé en tout cas par rapport.
Ça a réexplosé. Je pense que la stratégie, d'abord, elle a été vraiment pensée et écrite par Reebok International, ouais. Avec des vrais partis pris, effectivement audacieux, puisqu'il a fallu faire des coupes sombres dans un certain nombre de pans d'activité, notamment sortir du football. Donc, c'est pas des choix évidents. Mais à un moment donné, il fallait avoir un parti pris très clair, un positionnement très clair. Et donc, ça passait par des choix et l'arrêt de certaines activités. Et ça, je pense que j'ai vraiment eu la chance d'arriver à un moment donné où ces choix ont été très clairement assumés, avec le soutien d'ailleurs d'Adidas, et où il était question à la fois de montrer et de décliner sur les marchés, notamment le marché français, ce virage pris par la marque et de le faire vivre aux distributeurs, aux consommateurs. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que c'était vraiment une nouvelle histoire, mais qui s'appuyait encore une fois sur un ancrage très fort et une histoire encore très présente dans la tête des consommateurs et des distributeurs. Donc c'était une sorte de revival et ça c'était passionnant à écrire avec le soutien bien évidemment des équipes internationales. Et comme toujours, une stratégie elle se déploie sur des marchés pilotes. Donc les États-Unis en faisaient partie, l'Europe était un marché très très important et on a eu la chance en France d'avoir des moyens particuliers pour pouvoir donner vie à cette stratégie et faire en sorte que l'ancrage de la marque soit plus fort, donc au travers de magasins, mais aussi au travers d'expériences qui permettaient de montrer à quel point la marque avait bougé. Et alors, une des plus belles réalisations, c'est avec l'équipe en France et les équipes de Les Mills, on a pu créer la plus belle salle de fitness au sein du Grand Palais. Et ça a été un événement absolument magique. On l'a fait à deux reprises, donc avec le soutien aussi de Reebok International. C'est qu'on a pu créer un événement qui était vraiment un show, c'était presque un concert, pendant 5 heures. On a eu des cours chorégraphiés en partenariat avec Les Smiths. 5000 personnes qui sont venues au sein du Grand Palais, qui connaissaient par cœur les chorégraphies. On avait Fovoto en guest star, Laurie Tillman qui est venue également. Et ça permettait de prendre conscience, en fait, de ce lien très fort de ces passionné de fitness avec cette marque, qui a une véritable histoire extraordinaire, ouais. Et de l'énergie collective qui peut se créer autour de cours de fitness. On connaît la ferveur quand on est sur un stade de foot ou sur un stade de rugby. C'est pas forcément quelque chose qui est très visible pour des gens néophytes. Et quand on a embarqué avec nous des distributeurs, des futurs partenaires de la marque Avi, cette expérience-là, il n'y avait plus rien à démontrer sur des PowerPoint. En fait, la communauté fitness et le lien qu'elle avait avec la marque Reebok était démontré, était évidente.
Justement, on arrive derrière à... justement à fidéliser toute cette communauté. Tu parlais de dire qu'il y avait des 5000 personnes, donc les gens venaient à la fois pour la marque, pour l'univers, pour les stars qui étaient sur place, et après pour se dire que voilà, que les gens comprennent, alors peut-être plus que juste acheter des vêtements, de se dire en fait les gens vont devenir fans ou vont devenir vraiment les représentants de la marque Reebok en dehors des stars ou des influenceurs.
Alors, c'est tout l'enjeu, c'est de se dire, quand on fait des événements aussi forts, comment on maintient cette ferveur et de façon captive l'audience. Et le constat qu'on a fait à cette époque-là, c'est qu'il y avait un manque d'ancrage, notamment à Paris, mais pas qu'à Paris, dans les capitales européennes, de la marque. Donc, les aficionados de Reebok étaient les premiers à nous dire, mais où pouvons-nous retrouver la marque ? Donc, il y avait bien évidemment des corners dans différents grands magasins de la distribution sportive, mais pas de maison du fitness ou de maison Reebok où on pouvait à la fois découvrir des produits, pratiquer et se retrouver en tant que fan et créer des événements pour la communauté. Donc ça a été un démarrage d'une réflexion pour se dire mais cette nouvelle stratégie de Reebok, elle doit prendre vie dans un lieu pérenne avec un vrai point d'ancrage dans différentes capitales du monde.
D'accord. Et par rapport à la, on va dire au public ou aux acheteurs, c'est vrai qu'en de manière un peu cliché, si on pense au fitness, alors peut-être pas boxe, c'est même si c'est devenu plus en public, on pense plutôt à un public féminin. Comment tu arrives à cette époque? Est-ce que déjà c'est vrai, il y avait quand même plus un public féminin par rapport à vos acheteurs, ou justement montrer ou essayer de démocratiser le fitness auprès de tous les publics?
Alors, les nouvelles pratiques de fitness, elles sont résolument mixtes parce que quand on parle de sport de combat, aujourd'hui, c'est encore majoritairement pratiqué par les hommes, même s'il y a beaucoup de femmes qui se mettent à la boxe et notamment à la boxe sans assaut. Donc, tout ce qui est discipline, ouais. Boxe and bag, etc., c'est très féminin. Mais de façon globale, les sports de combat sont plutôt mixtes ou majoritairement masculins. Le crossfit, qui est donc la nouvelle tendance depuis maintenant 20 ans, mais qui a été propulsée en dehors des États-Unis par le partenariat Reebok.
Ouais.
C'est aussi une activité de cross-training très ancrée sur des mouvements de gymnastique ou d'haltérophilie ou d'athlétisme qui sont davantage prisés par les hommes, même si c'est mixte. Donc, ça a permis effectivement de rééquilibrer l'audience et les pratiquants. Quand on parle d'indoor cycling, c'est très mixte. Alors, en fonction du type de course, ça peut être plus féminin ou masculin, mais dès qu'on est davantage sur des typologies de cours qui sont peut-être moins fitness ou moins fun et un peu plus axé sur la performance, on va rééquilibrer à avoir davantage de parité. Mais même les cours chorégraphiés Les Mills, vous avez des cours qui intègrent des mouvements d'arts martiaux et pour l'avoir pratiqué dans beaucoup de salles, c'est très mixte en termes de population.
Oui, donc au départ, il y avait ces différentes disciplines qui permettent d'égaliser les acheteurs, mais après, en fait, oui, chacun... Ça s'est mixifié. C'est vrai que nous, on le voit chez Yoburo avec la boxe. Aujourd'hui, la pratique de la boxe en entreprise est très prisée par un public féminin. Donc, c'est super. Donc, ça devient des disciplines vraiment mixtes. Alors que c'est vrai, certaines disciplines aujourd'hui encore comme le yoga, peut-être, ou le pilates sont encore majoritairement féminins, même si on voit de plus en plus d'hommes qui le pratiquent. Justement, sur le, tu parlais du CrossFit, c'est un phénomène qui est assez incroyable, qui est une marque à proprement parler. Et c'est donc vous, enfin via Reebok, vous avez réussi à créer ce partenariat pour que la marque, enfin pour que ce concept se développe en France ou en Europe.
Ah oui, je pense que c'est un concept qui était très très bien implanté aux États-Unis déjà depuis quasiment 10 ans avant que Reebok ne signe le partenariat mondial. Et ça permet de propulser cette activité, de la faire connaître au grand public dans toute l'Europe et après dans tout le monde. C'était très très méconnu il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps quand je fais visiter la salle de sport de demander aux gens s'ils connaissent le CrossFit. On me regarde avec des yeux gros en disant, mais bien sûr, il n'y a plus besoin d'expliquer ce qu'est le CrossFit, mais ça a été une vraie révolution. Je pense que, notamment parce que ça a permis de donner un côté beaucoup plus performance aux pratiques sportives, et surtout le côté communautaire a créé un engouement, puisque c'est vraiment la philosophie même du CrossFit, c'est non seulement d'être une pratique qui permet de développer le corps humain de façon très complète, parce que c'est des mouvements fonctionnels qui permettent de travailler la coordination, la puissance, côté cardiovasculaire, la coordination, etc. Donc c'est très complet, mais c'est surtout une pratique collective où il y a une réémulation, puisqu'on peut travailler des exercices en binôme, il y a des parcours que l'on peut faire avec différents niveaux de pratiquants, et il y a toujours de l'entraide.
Ouais.
Et puis il y a aussi le plaisir de se retrouver après le cours. Donc c'est quelque chose de très très collectif qui manquait peut-être parfois aux pratiques de fitness, et ça participait à l'engouement. au-delà de, du fait que c'est, ce sont des pratiques qui transforment vraiment le corps. Donc, il y a des résultats très concrets sur la partie musculation et performance.
Ouais, c'est vrai que tous les, enfin, moi, je ne pratique pas le crossfit, mais c'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de moi et ça devient presque, alors, je vais pas utiliser le mot drogue, mais ça devient vraiment une vraie passion et les gens vraiment en font de plus en plus. Et c'est vrai que, on voit les différences, on voit l'évolution du corps assez rapidement. Tu parlais de communauté, justement. Est-ce que, comment toi, tu peux analyser cette évolution? Est-ce que c'est le fait juste des réseaux sociaux de se dire que justement, toute cette discipline de fitness, de crossfit sont devenues vraiment si très liées avec les influenceurs, avec justement des représentants? Là, je voyais dernièrement Sissi Mua, qui est représentante du fitness, qui a aussi s'est lancé dans le sport en entreprise. Comment tu peux analyser justement ce changement, cette bascule du monde du fitness en lien avec tous ces influenceurs ou tout ce mot de communauté?
Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes qui ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre, mais déjà, je pense que avant même qu'il y ait les influenceurs, le sport a toujours été un endroit éminemment social. Le plaisir de pratiquer un jeu ou un sport en collectif n'a rien à voir avec le plaisir de pratique en solitaire, même si j'adore courir toute seule. Mais c'est évident que ça a toujours été un lieu fédérateur et des moments de rencontre et de partage d'émotions ou d'événements de façon collective. Donc ça existait bien avant les influenceurs. Je pense que la pandémie a fait renforcer ce besoin de se retrouver ensemble pour pratiquer ou apprendre ensemble des nouvelles disciplines sportives. Après, il y a un sujet de représentation et de rôle modèle. Donc c'est là où les influenceurs ont joué un rôle. Les gens ont besoin de s'identifier à des modèles et donc des influenceurs qui aujourd'hui montrent l'importance du sport. Du sport bien-être ou du sport pour sculpter son corps fait qu'il y a également un phénomène de communauté qui se crée autour de rôles modèles et d'influenceurs. Mais ça n'a fait que venir renforcer le fait que le sport est avant tout, principalement quand même, une pratique collective et de sociabilisation.
On va le voir, je pense, pas mal dans les prochains mois avec les Jeux Olympiques. Tu en as parlé, j'ai pu le citer en introduction. Donc depuis quelques années, tu as fondé la salle de sport. Donc c'est une salle qui est vraiment au cœur de Paris, près de la Madeleine, pour les gens qui connaissent pas. Si tu peux aussi nous parler un peu de ce projet, comment c'était créé, comment c'était venu, si vous étiez peut-être plusieurs, et quel était vraiment le concept de départ de cette salle de sport.
Alors c'est un projet qui est né au sein du groupe Adidas avant toute chose grâce au parcours en tant que directrice de la marque Reebok et au fait d'avoir justement vécu des événements très forts avec la salle de fitness au sein du Grand Palais. C'était la prise de conscience de se dire une stratégie de marque, elle doit avoir des points d'ancrage, elle doit pouvoir s'exprimer dans la vraie vie et proposer des vraies expériences qui soient palpables pour ses distributeurs, ses consommateurs, ces communautés. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai eu la chance de goûter très tôt à la création d'entreprise et que j'avais envie de me relancer dans un projet. Alors, comme souvent, c'est des choses un peu latentes. On ne sait pas à quel moment ça prend forme et ça mûrit. Mais il y a toujours un moment donné où il y a une opportunité qui se crée. Et j'avais la chance d'avoir au sein de mon équipe une personne, Steve, qui a beaucoup travaillé à mes côtés sur le développement de Reebok sur le marché français. Et ça faisait déjà un petit moment qu'on réfléchissait sur le fait qu'il manquait un lieu pérenne pour Reebok, qui soit un vrai lieu de vie et qui permette de faire vivre justement leur positionnement stratégique de la marque. Donc, c'est en gestation. D'un point de vue personnel, moi, j'avais envie aussi de créer quelque chose et de me remettre à mon compte. Et puis, la chance, on va pas dire concours de circonstances, mais la chance fait que au sein du groupe, il y a eu un appel à projet par le président d'Adidas Europe à l'époque, et il a fait un appel à projet au sein d'un certain nombre de personnes du groupe en disant que dans le cadre de la stratégie des deux marques, il fallait pouvoir accélérer des prises de marché sur des capitales mondiales, parce que la bataille des marchés se fait essentiellement dans ces grandes métropoles, et que il avait besoin d'avoir des game changers proposés par ces équipes pour justement donner d'autres point d'ancrage aux deux marques. Et ça a été l'occasion, pour Steve et moi, de proposer ce projet qu'on avait en tête et sur lequel on réfléchissait déjà depuis quelque temps, en disant on va proposer la House of Fitness, la maison du fitness, qui serait un vrai lieu de vie et un lieu qui permettrait, au sein de la capitale parisienne, de donner vie à la nouvelle stratégie de Reebok. Donc, ça a été proposé parmi d'autres projets et il y a eu 5 projets qui ont été retenus, 4 Adidas et celui-ci pour Reebok. Alors, comme toujours, c'était initialement un projet plutôt éphémère, donc un projet marketing. On avait donc des moyens pour pouvoir créer un lieu sur une période de 6 mois. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Pourquoi ne pas en faire un lieu pérenne? Ce qui n'était pas la philosophie de départ, c'était pas l'objectif du groupe. J'ai proposé que ce soit un projet intrapreneurial qui devienne entrepreneurial. Et dans ces cas-là, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous avez l'appui des bonnes personnes? Ouais. Ça n'a pas été du jour au lendemain acté, mais en tout cas, j'ai eu le soutien de Guillaume, de mon DG en France, d'Alain, du patron de Reebok Monde. Et donc, à un moment donné, les planètes se sont alignées et on a pu faire en sorte que ce soit un projet pérenne. J'ai 2 associés qui m'ont rejoint à cette époque-là. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour mettre les choses en place, mais ça a été une vraie chance parce que sans le soutien du groupe Adidas, c'est un projet ambitieux qui n'aurait pas pu voir le jour. Donc, c'était vraiment au service d'une stratégie de marque avec le soutien d'un groupe.
Donc, ça veut dire que ça a été lancé de manière éphémère, dans une idée éphémère, et toi, tu as en quelque sorte racheté le concept pour le prendre à ton compte?
Alors, au moment où le projet devait être soumis pour une validation définitive au sein du groupe, j'ai proposé un projet pérenne d'entrée de jeu.
D'accord.
De façon à ce que on puisse se mettre d'accord sur les enjeux financiers, le fait que ça servait dans la durée, la stratégie de marque, etc. Donc, tout de suite, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'avait pas de sens de faire des investissements pour 6 mois et la marque en avait besoin. Et donc, c'était tout de suite un projet pérenne et qui a mis un certain temps avant de passer toutes les étapes de validation, avec beaucoup de rebondissements, mais ça serait trop long d'en parler aujourd'hui. Et puis après, il a fallu aussi trouver le lieu idéal sur Paris pour que ça puisse effectivement prendre corps et prendre vie.
Et après, une fois qu'est-ce que tu te souviens justement de ce premier jour de lancement, d'ouverture? Je ne sais pas si tu avais fait peut-être le même principe que Grand Palais, peut-être en plus petit du coup, comme la salle est plus petite, mais justement d'avoir un événementialisé le premier jour où c'était devenu directement où tu as essayé de le proposer un peu comme une salle de sport, en fait, à première vue. Donc, les gens sont venus aussi pour pratiquer comme ils auraient pu pratiquer dans d'autres salles de sport.
Alors, ça a été vraiment positionné dès le départ comme une plateforme de marque pour Reebok. Donc, un lieu de vie qui est un vrai hub sportif, donc pas juste une salle de sport, même si le nom s'appelle la salle de sport. Donc, très vite, et c'est aussi toute la difficulté de l'exercice, puisque c'était un lieu très atypique où on était à la fois une boutique, laboratoire pour des lancements de produits, mais pas qu'une seule boutique, un lieu de vie avec un social club, un restaurant, mais pas uniquement un restaurant, et puis une salle de sport, mais une vraie salle de sport avec 4 pôles d'expertise, que sont la boxe, le crossfit, le yoga et l'indoor cycling. Et donc, comme c'était totalement un concept disruptif et atypique, il a fallu très vite communiquer sur ce qui crée la différence dans ce lieu. Et là, la marque nous a vraiment accompagnés sur la stratégie de lancement. Et donc, le premier événement qui a eu lieu au mois de novembre 2017 est un très, très bel événement de marque organisé par Reebok au sein du groupe Adidas pour justement montrer la rupture et le fait qu'on était un lieu d'expression d'une marque au-delà d'une simple salle de sport.
Et est-ce que très vite, justement, sur le côté salle de sport, il y a eu ça fonctionnait de se dire, vous êtes à des cours tous les jours, t'as des gens qui viennent parce que justement ils ont un abonnement, ils viennent faire leur indoor cycling, ils viennent faire leur boxe, etc.
Oui, il y a vraiment 2 modèles économiques qui sont en synergie. Un magasin qui présente, alors qui aujourd'hui est passé multimarque, mais qui a vocation à présenter des gammes plutôt techniques pour des pratiquants aguerris, qui a vocation aussi à lancer des nouveaux produits, donc à permettre aux marques qui lancent des nouveaux produits de faire des lancements en lien avec des événements faits à la salle de sport. Et puis, une salle de sport qui fonctionne comme une salle de sport avec un vrai modèle économique de salle de sport et des membres qui s'inscrivent avec différents types de formules et qui vont pratiquer en général plutôt dans la diversité diversité. On prône la diversité des pratiques. Donc, il y a des crossfiteurs qui sont quand même très, très axés purement crossfit. Mais la plupart de nos membres pratiquent au moins deux ou trois activités différentes et donc complémentaires. Et c'est ce que l'on prône encore une fois parce que pour l'équilibre et l'épanouissement, c'est bien de pouvoir associer de la boxe à du pilates ou du cycling à du yoga.
Et est-ce que le succès était au rendez-vous au départ? Est-ce que c'était bien, bien reçu justement ce principe que vous souhaitiez de dire, bah, est-ce que les gens peut-être vous demandaient que Reebok ait un lieu d'ancrage au cœur de Paris?
Alors, ça a été très,
pas
très
que,
bien.
Du coup, mais...
Ça a été très, très bien perçu. Après, le succès au rendez-vous, il faut toujours plus de temps que ce qu'on imagine pour faire comprendre qui nous sommes et créer vraiment une destination. On a beau être dans un emplacement au cœur de Paris, avoir un nom de marque fabuleux, parce qu'on était la salle de sport Reebok, et avoir aussi un gros soutien en termes de communication de la part de Reebok, eh bien, il faut du temps parce qu'on change les habitudes, on crée quelque chose de nouveau. Donc, il y a eu un buzz qui s'est fait, mais il a fallu au moins plus d'un an pour vraiment avoir plus de 1000 membres. Avant la pandémie, on était quasiment à 1500 membres. Donc, il faut du temps, en fait, pour installer, surtout quand c'est une nouvelle histoire, une nouvelle idée, et quelle que soit, encore une fois, la force de frappe et la notoriété de la marque.
Et justement, pendant cette période de pandémie, est-ce qu'il y a eu un petit tournant pour vous? Est-ce que c'était juste une pause le temps que ça reparte? Ou justement, vous avez réussi à un peu prendre ce virage de la visio, de continuer à proposer des activités sportives ou de fitness à distance?
Ah, c'était un gros coup sur la tête, la pandémie. On peut appeler ça comme ça. Oui, alors on a pu proposer les cours en visio, mais toute la profession a énormément souffert parce qu'on a dû fermer pendant un an. Donc ça a été très compliqué puisque nous on n'avait pas 20 ans d'existence, hein, donc on était en plein essor.
Ouais.
On avait quasiment doublé le chiffre d'affaires en 2019 par rapport à 2018, donc on était vraiment en train d'être sur une rampe de lancement et on a eu ce coup d'arrêt terrible, mais qui a encore une fois affecté toute la profession. Donc ça a été une période très très compliqué. On a énormément souffert financièrement. En plus, très peu de temps après, Adidas a pris la décision stratégique de se séparer de Reebok. Donc, notre principal sponsor n'était plus au rendez-vous. Donc, ça a été une période compliquée. Mais comme il en existe dans toute vie d'entreprise, et encore une fois, je pense que toute l'industrie du fitness a été particulièrement bouleversée de cette période-là. On a appris. On a appris. Mais c'est vrai que ça a été une période de très, très compliquée pour les équipes aussi. Parce que, encore une fois, on est dans un univers de liens sociaux. Être coupé, même si on a continué à faire des cours en visio, on a été quand même coupé de ce lien social pendant très longtemps.
Et donc, l'enseigne a, enfin, le concept, enfin, le lieu est resté, mais ça a changé de propriétaire, ça. Quand Reebok est sorti d'Adidas, il y a eu une nouvelle association avec une autre marque.
Oui, alors on a été aidé par le groupe Go Sport qui se repositionnait à cette époque-là, donc il y a 2 ans, sur du sport performance. Donc ça a permis de renflouer très très clairement la salle de sport et de passer la boutique en multimarque. Donc en gardant bien évidemment Reebok qui était vraiment au cœur de notre histoire. Ouais. Donc on a beaucoup de clients qui continue à venir chercher les produits emblématiques de Reebok. Mais le positionnement de la salle est resté le même. C'est-à-dire que c'est toujours un lieu de vie, un hub sportif, une vraie synergie entre de l'équipement sportif, des testings produits, des événements de marque autour de lancement de produits et puis de la pratique sportive. Donc l'histoire s'est poursuivie différemment et elle va encore se poursuivre différemment dans les prochains mois.
Ouais. Et est-ce qu'en tant qu'entrepreneuse, est-ce que tu avais cette volonté, les projets aussi peut-être d'exporter le concept, de pouvoir le proposer dans d'autres villes, dans d'autres capitales?
Alors, ça faisait partie de la réflexion initiale du groupe, de se dire, puisque c'était une stratégie, encore une fois, européenne, donc ça faisait sens d'avoir ce type de plateforme de marque dans d'autres capitales européennes. Donc, on en a parlé. La pandémie, effectivement, a mis un coup d'arrêt. Ça n'empêche que un certain nombre de filiales de Reebok sont venues voir ce que l'on faisait et ont pu réadapter sur d'autres marchés. Je pense notamment à l'Amérique du Sud, ce type de concept. Donc, ça a permis de montrer qu'on pouvait sortir d'un modèle économique pur et dur, soit de boutique en tant que tel, soit de salle de sport adossée à une marque, et de créer quelque chose de beaucoup plus complet. plus holistique, ouais. Et que ça faisait du sens. C'est sûr que c'est encore une fois un projet ambitieux, lourd financièrement.
Oui,
il faut forcément qu'il y ait un appui d'un sponsor et une audience dans une grande capitale. Ou alors, il faut faire des déclinaisons sur des plus petits formats, ce qui est moins évident.
Et sur un autre univers, mais qui est toujours en lien avec ta passion, le sport, j'ai pu voir aussi que tu avais sorti des livres de photos sur le sport féminin. Comment ça t'est venu, ce projet, cette envie de faire ça?
La crise de la quarantaine. Et c'est vrai, en plus. je ne sais plus exactement quel a été le cheminement, mais c'était à un moment donné l'envie de dire il y a quelque chose de très très fort dans ma vie qui est le sport. Le sport féminin, alors on en parle beaucoup aujourd'hui, ouais. Mais le premier livre remonte à 2007, donc ça fait déjà quand même quelques années. À cette époque-là, j'avais le sentiment que le prisme était souvent un prisme masculin. Même quand on parlait du sport au féminin, c'était souvent des journalistes masculins qui tendaient leur micro à des sportives. Et donc, j'avais très envie de pouvoir rencontrer des sportives plus ou moins célèbres, en tout cas des femmes qui s'étaient construites au travers du sport, de le faire avec une photographe. Donc, j'ai fait deux ouvrages avec deux photographes différentes, Muriel Franceschetti pour le premier et Catherine Cabrol pour le deuxième. Et l'idée, c'était de pouvoir dire... on vous tend un miroir, à vous, femmes passionnées de sport, à vous de nous livrer ce que vous avez envie de livrer sur la manière dont le sport vous a construite. Donc, c'était une démarche assez intimiste, puisqu'on leur demandait de livrer des émotions, des sensations très particulières, des choses qu'elles ne livraient pas forcément lorsqu'on les interviewait, parce qu'on parle plus de performance, de records, etc. Donc, c'était plus une démarche personnelle et intimiste. Et au départ, j'avais envie de couvrir différents types de disciplines pour justement voir s'il y avait des correspondances, au contraire des choses très très différentes qui se passaient entre une danseuse de hip-hop et une navigatrice. Mais très vite, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de correspondances entre elles, et c'est ça qui m'a intéressée. C'est d'accord. De voir justement comment les unes et les autres pouvaient tenir des propos qui résonnaient.
Ouais.
Et ce qui est fabuleux, c'est que elles se sont toutes ces sportives que j'ai commencé à contacter, elles ont fait presque une grande chaîne de l'amitié. C'est-à-dire que une sportive me renvoyait vers une de ses amies en disant mais elle aura des choses à livrer, etc. Et donc c'était vraiment le premier livre a été une belle découverte, des belles rencontres. Et j'imaginais pas qu'une édition comme Décision de la Martinière me donnerait la possibilité d'en faire vraiment un beau livre. Et c'est à chaque fois beaucoup de correspondance entre des émotions, des choses très cérébrales ou affectives, ouais. Et puis ce qui se passe dans le corps.
Et est-ce qu'il y a d'autres projets d'envie, justement? Il y en a eu deux qui sont sortis, un troisième.
Alors, à ce jour, il y a des envies d'écrire de nouveau, mais je n'ai pas de projet vraiment défini. Mais je pense que ça reviendra.
Tu parlais de ton engagement des femmes dans le sport, la place des femmes dans le monde sportif. J'ai vu dernièrement que tu participais à un club, ça s'appelle le club des 300 avec le CNOSF. Est-ce que c'est important pour toi justement aujourd'hui? On parle souvent justement du sport féminin, qui se développe de plus en plus, mais qui est quand même encore loin. On le voit là, médiatiquement pas assez représenté, etc. Est-ce que c'est important pour toi cet engagement justement à développer le sport féminin? Et ma deuxième question qui suivrait sur quelle est ta position aujourd'hui? Enfin, comment tu vois peut-être l'avenir justement? Qu'est-ce qui peut faire évoluer les choses?
Alors, c'est important, j'irais même, c'est essentiel, puis ça participe à un mouvement sociétal plus global. Alors, la première fois où j'ai pris conscience du fait qu'il y avait vraiment des actions volontaires à mettre en place, c'est justement lors de la sortie du premier livre Corps et âme. J'avais interviewé Laura Flessel ou Frédéric Jussinet, très très grandes sportives, et je me suis rendu compte que elles avaient eu très peu l'occasion de pouvoir exprimer des choses très personnelles sur justement leur parcours au travers du sport. Et on sait très bien que ce qui n'est pas visible n'existe pas. Et donc, à mon petit niveau, j'ai pris conscience que il y avait une place complètement vacante qui ne demandait qu'à être remplie, parce que ces femmes ont tellement de choses à livrer. Et à ce moment-là, j'avais rencontré Marie-Françoise Potreau, qui est aujourd'hui vice-présidente au sein du CNOSF en charge de la mixité et de Paris 2024. Et à l'époque, Marie-Françoise Potreau était présidente du FEMIX, très belle association qui a été fondée par Marie-Georges Buffet, laquelle Marie-Georges Buffet a fait beaucoup de choses pour œuvrer pour la parité au sein des instances dirigeantes. Et donc, Marie-Françoise Potreau m'avait fait prendre conscience de tout ce qui était mis en œuvre et de tout ce qui était encore à réaliser pour donner sa part, son pleine et entière, à la femme au sein du sport, mais de façon générale, pas uniquement au niveau des sportives, mais au niveau des instances dirigeantes, au niveau de l'encadrement, au niveau des DTN, etc. Mais j'en étais assez éloignée à cette époque-là, donc c'était ma première rencontre, et j'ai rencontré à intervalles réguliers Marie-Françoise Potreau, qui est une femme totalement engagée pour cette cause depuis des années, qui a une énergie incroyable et qui, à intervalles réguliers, m'a demandé de pouvoir lui apporter un peu de soutien, si j'ose dire, et de m'inclure dans des groupes de réflexion. Mais à mon niveau, j'ai fait très peu de choses. Simplement, je suis très sensible à cette cause-là. Et à chaque fois que je peux apporter une contribution, je le ferai. Mais j'ai vraiment touché du doigt l'importance du chantier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, notamment sous l'impulsion du CNOSF et des Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a, encore une fois, plusieurs volets qui sont nécessaires. C'est d'abord faire en sorte qu'il y ait de la parité au niveau des instances de direction. Ouais. D'où la nécessité de former. Parce que des femmes pleines de talent, il y en a beaucoup. Encore faut-il effectivement de les accompagner pour qu'elles se sentent légitimes à prendre des postes à plus haute responsabilité. C'est ce que fait Marie-Françoise Potreau, c'est ce que fait Femix. Donc tout ce travail en amont pour coacher, former, encadrer et accompagner ces futures femmes dirigeantes, ça c'est vraiment un pan essentiel de cette action stratégique. Donc c'est le club des 300 lancé par le CNOSF. Et là, je pense que c'est important que des personnes qui ont eu des responsabilités dans quelles que soient les entreprises puissent aussi être en soutien de ces femmes-là qui ont énormément d'expertise, de compétences et qui n'ont pas forcément eu cette expérience de management et de gestion de gouvernance dans des gros groupes. Et donc, les fédérations sont des modèles de gouvernance aussi complexes. Donc, il faut aussi pouvoir apprendre à évoluer au sein de ces instances de direction. Donc, ça, c'est le premier pan. Ensuite, c'est la formation des métiers. Et là, c'est pareil. Je pense qu'il y a tout un travail éducatif. Donc, c'est un travail au long cours, puisque quand vous voyez la représentation des métiers, la plupart des métiers liés au sport sont des métiers très masculins, en tout cas leurs représentations sont très masculines. Et c'est essentiel que les jeunes filles très tôt puissent se dire, que les fillettes et que les jeunes filles puissent se dire, je peux être arbitre de football, je peux... Voilà, tous ces métiers sont ouverts aux femmes, et c'est ce qui va aussi faire évoluer d'abord le regard qu'on pose sur la femme dans l'univers du sport, et puis aussi l'encadrement qui va être donné aux futures sportives de demain. Ouais. Parce que l'encadrement reste encore très fortement masculin. Et puis après, c'est aussi la place des femmes sportives, leur soutien financier, donc la modélisation du sport féminin, qui fait que, bien évidemment, il faut que ce sport soit plus visible, soit plus soutenu médiatiquement, donc il faut que ce soit un modèle économique aussi plus ajusté. Je ne suis pas une experte en la matière, mais j'ai participé à des tables rondes, et là aussi, des modèles, que ce soit au Canada ou en Angleterre, qui sont des modèles très performants et desquels on peut apprendre pour le modèle français.
Et pour conclure, quel serait justement un message que tu pourrais faire passer pour des femmes ou jeunes femmes qui hésiteraient aujourd'hui, ou pour les motiver à se lancer justement dans le monde du sport et être peut-être les représentants du sport féminin de demain?
Osez, mesdames. Non, je pense que le sport est certainement une des tribunes d'expression personnelle et collective les plus belles. Donc, c'est une manière de s'exprimer et de se développer, j'ai envie de dire corps et âme, pour plagier un livre, qui est fabuleuse. Donc, c'est et c'est en plus un chantier ouvert qui a énormément d'opportunités. Je pense que le tremplin de Paris 2024 va être une formidable opportunité. Donc, c'est le moment ou jamais d'oser prendre sa place dans cet univers-là, et quelle qu'elle soit, encore une fois, en tant que dirigeante d'entreprise, en tant que sportive de haut niveau ou en tant qu'arbitre.
Oui, alors je pense que oser est un beau mot de fin, et surtout oser aussi venir dans la salle de sport pour rencontrer et découvrir ce beau projet que tu as au cœur de Paris. Et ben, merci beaucoup Sandrine, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
Merci beaucoup Simon, plaisir partagé.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère qu'il vous a plu, et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, noter ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. À bientôt !